Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors ce matin, le titre c'est « La famille favorisée ». Et puis avant d'aller plus loin dans la parole, je vais vous inviter à pencher vos têtes, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, on vient devant toi encore une fois. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui ne change jamais, mais qui change des vies. On veut te remercier, Seigneur, pour la présence de ton esprit qui est ici dans cette place, qui est ici pour nous illuminer, Seigneur Dieu, nous donner cette révélation qu'on a besoin dans nos vies. Seigneur, je te prie qu'on n'ait pas un coup raide, mais Seigneur, qu'on puisse être souple, qu'on puisse dire oui, Seigneur, quand tu nous parles, et qu'on puisse mettre notre vie en ordre. Seigneur Dieu, qu'on n'ait pas un esprit rebelle, mais qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais ça qu'on baisse le volume. Moi, j'entends un écho. Est-ce que ce serait possible de baisser le volume un peu? Peut-être enlever du reverb ou je ne sais pas. J'entends ça résonner. S'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 6 et le verset 47. Vous savez, le Seigneur a un désir pour son Église et ce désir-là, c'est qu'on puisse aller toujours plus loin avec lui, qu'on puisse marcher et vivre la gloire de Dieu à tous les niveaux dans nos vies. C'est le cœur de Dieu. Et le Seigneur a déposé ce message-là dans mon cœur parce que je ressens que l'ennemi de nos âmes veut attaquer les couples, veut attaquer les familles, parce que justement la famille, c'est le bloc de composition de la société. Et si l'ennemi peut détruire des familles, s'il peut détruire des couples, bien il arrive à toucher la société. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous appelle à connaître ses pensées sur la famille, comment on est supposé de marcher avec lui et comment est-ce qu'on est supposé de vivre la famille chrétienne selon la parole de Dieu. Puis quand on réalise vraiment les préceptes et les façons que Dieu a établies et on met notre vie en règle selon la parole de Dieu, on expérimente la bénédiction de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, c'est important et je crois vraiment le ministère de la famille, il y a des ministères comme Focus on the Family en français, je ne suis pas sûr du nom, mais il y a toutes sortes de ministères qui se concentrent vraiment pour aider les familles. Et même si notre ministère ici, ce n'est pas généralement des sujets sur la famille qu'on prêche, mais je pense que c'est important de temps en temps de revenir là-dessus et voir la vision de Dieu pour la famille. Que vous soyez marié, célibataire, peu importe, si vous êtes célibataire, ce message est pour vous. Parce qu'un jour, peut-être, vous allez vous marier et vous aurez besoin de connaître le conseil de Dieu pour la famille. Si vous êtes marié avec une famille, bien, certainement, c'est pour vous. Peu importe, c'est pour tout le monde, ce message-là. Et vous savez, que vous soyez une femme ou un homme, il y a des choses qu'on peut apprendre de tous les côtés quand on prend le temps d'investir du temps pour voir qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la famille. Mais la première chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est dans Luc chapitre 6 et le verset 47. Et encore une fois, on va voir que Dieu nous donne, il nous met devant une décision. Toutes les choses qu'on peut vivre en Dieu, que ce soit la bénédiction, la gloire, tout ça, Dieu nous demande toujours qu'est-ce qu'on veut, nous. Est-ce qu'on veut dire oui ou non? Et dépendamment de notre réponse, ça détermine notre bénédiction. Dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49, il est écrit. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Alors, ce matin, le premier texte qu'on examine ici, c'est comment on a le choix et le privilège de bâtir nos familles sur le roc. On a le choix de bâtir nos vies sur le rocher solide et son nom est Jésus ce matin. Amen. Vous connaissez ce grand nom, celui qui est le consommateur de notre foi, c'est lui qui est la source de toutes choses. Et si on décide que notre vie, on veut vraiment l'établir sur de quoi de solide, certainement on va dire que Jésus est ce rocher sur lequel on va placer notre foi et comment on va s'établir fermement. Et ce matin, Vous savez, moi, j'ai vraiment à cœur les familles parce que je crois que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est causer la division parmi nous et causer la division même à l'interne. Vous savez, si un couple se chicane avant d'arriver à l'église, est-ce que ça vous êtes déjà arrivé avant de venir à l'église de vous chicaner en auto? Des fois, là, toute la semaine, ça va bien, mais le dimanche matin, c'est le moment de la friction. Pourquoi pensez-vous? Mais parce que l'ennemi veut causer de la division dans votre cœur. Comme ça, quand vous allez arriver à l'église pour louer le Seigneur, bien, il va y avoir des choses en dedans. Ça ne sera pas bien, vous ne serez pas confortable. Et là, quand vous êtes affecté, bien, ça va affecter toute l'église. Et la présence de Dieu qui voudrait descendre parmi nous est limitée parce que plein de coupes en chicane. Est-ce que c'est notre cas ici, à l'église de la Victoire? Non, on n'est pas en chicane, on est tous dans la joie perpétuelle. Mais je pense que c'est important de se rappeler que l'ennemi a un agenda pour la famille. Il veut détruire la famille, mais heureusement, Dieu aussi a un agenda et c'est de nous faire grandir dans ses voies et de nous bénir. Amen. Alors, aujourd'hui, on prend la décision qu'on va bien s'établir. On va connaître le conseil de Dieu et on va dire oui à qu'est-ce que Dieu veut. Alors, la première chose qu'on doit faire, si on veut comprendre la famille, il faut comprendre le mariage, n'est-ce pas? Donc, je vous invite à tourner dans Marc chapitre 10, on va aller au verset 6. Marc chapitre 10, commençant au verset 6. Il est écrit, « Au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain. Il a créé homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. » Et les deux ne feront plus qu'un. Les deux deviendront une seule chair dans la Louis II. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont un. Ils font un. Vous savez, quand il y a un jeune couple qui vient me voir, qui me dit, bien, nous, on veut se marier. On veut avoir, bâtir notre vie ensemble, toute notre vie. Bien, la première chose que je fais dans le cours de préparation au mariage, si jamais vous allez venir le suivre avec moi, vous allez voir la première chose que je vais voir, est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Est-ce que vous avez vraiment donné votre vie à Jésus-Christ? Parce que ça, c'est la chose numéro un. Dans le premier cours, si vous n'êtes pas consacré à l'Éternel, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, je ne vous marierai pas. Et j'ai même partagé avec un couple, j'ai dit, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'accepter Seigneur pour vous marier. Vous pouvez vous marier à l'hôtel de ville ou vous pouvez aller dans une église qui marie n'importe qui. J'ai dit, je peux vous donner l'adresse de certaines églises. Ils vont marier n'importe qui, n'importe comment. Mais j'ai dit, moi, si je vais bénir l'union, une des choses que je veux m'assurer, c'est que votre vie appartient à Dieu. Parce qu'un mariage sans Dieu, moi, je ne crois pas là-dedans. Moi, je ne peux pas bénir un mariage de deux inconvertis. Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que je vais faire si je vais bénir un couple qui aime le Seigneur et que Dieu fait partie de l'union? Parce que dans Ecclésiaste 4, 12, ça nous dit, « Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci, et une corde à triple brin n'est pas vite rompue, ou la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Alors, quand on a Dieu dans l'union, si on passe à travers des épreuves, des choses difficiles dans nos vies, si on a Dieu qui fait partie du mariage, bien, on va être plus fort, n'est-ce pas? Et quand l'ennemi envoie des choses contre nous, quand il y a des vents contraires qui viennent contre la famille, contre le couple, bien, quand on prie ensemble, vous savez, avec Dieu, tout ce qui est, même si les hommes disent c'est impossible, Dieu dit c'est possible et Dieu est capable d'amener une restauration. Amen? Alors, moi, je crois que c'est vraiment important. Alors, dans mes cours de préparation au mariage, c'est ça que je fais. Première chose, on vérifie le salut. On voit est-ce que les deux sont consacrés à Dieu. Et par la suite, si les deux veulent servir le Seigneur et veulent bâtir sur une fondation sûre, là, on peut continuer dans les cours. Mais sinon, ça s'arrête là. Une des choses qu'on doit comprendre aussi, c'est que Dieu célèbre le mariage et même c'est tellement important pour Dieu que l'institution du mariage était là même avant l'Église. Vous savez, Jésus aime l'Église, il a donné sa vie pour l'Église, mais même plus que ça, Dieu a créé le mariage avant l'autre institution de l'Église. Donc, c'est vraiment dans le cœur de Dieu. Et la relation entre Christ et son Église, c'est encore typifié par le mariage. Alors, c'est dans le cœur de Dieu, c'est vraiment important. Et le mariage, quand c'est dans les voies de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, de béni. Mais la religion, d'une certaine façon, veut noircir des choses. Encore une fois, la religion, la tradition, veut faire en sorte qu'on perçoive le mariage d'une façon négative. Et dans la société aussi, c'est souvent comme ça. Les gens vont dire, mais pourquoi se marier? Pourquoi juste pas vivre ensemble? Hein, on vit ensemble, on est heureux. Pourquoi se marier? Pourquoi nécessairement avoir une feuille de papier? Hein? C'est juste une feuille de papier, après tout, le mariage. Avez-vous déjà entendu des discours comme ça? Les gens qui disent, c'est juste un morceau de papier. Mais vous savez, quand vous achetez une voiture, vous signez un morceau de papier, n'est-ce pas? Et ce morceau de papier-là vaut quelque chose. Quand vous travaillez, vous recevez un chèque, mais votre chèque, c'est sur un morceau de papier, n'est-ce pas? Et ça vaut quelque chose. Vous achetez une maison, encore une fois, vous allez passer devant un notaire et signer un morceau de papier, et ça vaut quelque chose. Et comment ça, tout d'un coup, quand c'est le mariage, ça vaut rien? Non, ça vaut quelque chose. C'est pas un contrat, c'est une alliance devant Dieu. Et on s'engage pour le meilleur ou pour le pire de vivre avec cette personne jusqu'à temps que la mort nous sépare. Amen? Donc, c'est important et ça vaut quelque chose aux yeux de Dieu. La société dirait, ben, c'est pas important et on peut vivre ensemble, ça fait pareil. Moi, je peux vous dire, quand un couple accepte de vivre ensemble avant le mariage et qu'après 10, 15, même 20 ans, le conjoint, admettons, quitte la relation et la femme est toute détruite à l'intérieur, se disant, mais pourquoi qu'il m'a laissé? Pourquoi qu'il m'a abandonné? On était ensemble, on était engagés. Moi, je pourrais dire non. Vous n'étiez pas engagés. C'est faux. Vous n'étiez pas mariés. Vous étiez juste ensemble, en concubinage. Puis si la personne décide de quitter la relation, c'était toujours dans les plans. Parce que la personne ne s'était jamais engagée. Alors, il ne faut pas se surprendre. Si on veut avoir une vie bénie, puis on veut vivre une vie solidement établie, il faut mettre les choses à la bonne place. Il faut faire les choses correctement. Dans la société, les gens disent, on va avoir des enfants et dans 10 ans, on va se marier. Connaissez-vous des gens comme ça? Mais quand on n'entend pas parler de la volonté de Dieu, mais c'est correct. Hein? On dit, ben c'est correct de faire ça. On ne fait pas de mal à personne. Mais selon Dieu, ce n'est pas les choses selon l'ordre de Dieu. La façon que Dieu opère et comment il veut qu'on marche, c'est que premièrement, on commence à se fréquenter. On vit une fréquentation. Et quand on croit vraiment que la personne est appelée ou on est appelé à se marier ensemble, là, on devrait commencer à suivre des cours de préparation au mariage. N'est-ce pas? On sort pas à droite et à gauche en espérant peut-être que c'est la bonne personne. Moi, je me souviens, ma mère m'avait dit, elle dit, Joël, tu n'es pas obligé d'avoir 10 blondes. Tu peux en avoir juste une, puis ça soit la bonne. Alors, moi, que j'ai fait depuis que j'avais 3-4 ans, ma mère, elle me faisait prier. Je priais pour ma femme. Savez-vous ça? J'avais 3-4 ans, ma mère m'enseignait, prie pour ta femme, prie pour ton épouse, que Dieu la prépare. Alors, finalement, moi, j'ai sorti à 10 ans, OK? J'ai eu une blonde à 10 ans et à 5 ans. Je peux vous dire, à 5 ans et à 10 ans, j'allais à des rites de 5 ans. C'était pas vraiment sérieux à 10 ans. Mais après ça, j'ai pas eu de blonde parce que je me rappelais que ce que mes parents m'avaient enseigné. C'est pas nécessaire d'avoir 10, 15 blondes. Faut en avoir juste une. Hein? Parce que je veux passer ma vie avec une femme. Alors, j'ai prié. J'ai rencontré Mathilde dans le portique de l'église et on s'est mariés. Pas la même journée. Mais on s'est mariés à l'église, on s'est rencontrés à l'église et on n'a pas vécu ensemble avant le mariage. Non, on a fait les choses bibliquement. On s'est fréquentés et quand on savait vraiment que le Seigneur nous avait appelés ensemble et j'avais prié, Mathilde avait prié de son côté, là, j'avais une conviction que Mathilde était la femme de ma vie. Et je me suis engagé envers elle. Et puis, vous savez, quand on le sait vraiment, on marche dans la paix, dans la joie. Et le jour de mon mariage, je peux vous dire, j'étais même pas nerveux de me poser la question, c'est-tu vraiment elle? Fais-tu vraiment la bonne décision? J'avais même pas zéro crainte. Je le savais. Dieu m'avait montré que c'était la femme de ma vie. Alors, c'est merveilleux de marcher dans la paix, la joie. Parce que c'est ça que Dieu veut pour nous. Amen? Mais il faut décider, est-ce que je veux faire à ma tête mon plan? Est-ce que mon plan est meilleur que le plan de Dieu? Je peux vous dire, ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que Dieu puis qui sont plus intelligents et qui se disent, ben moi, je sais que bibliquement, on ne devrait pas vivre ensemble avant le mariage, mais nous autres, on est plus modernes, on va faire ça à notre façon. Je peux vous dire que ça mène à l'échec. C'est soit qu'on serve Dieu avec toute notre vie et qu'on dise, oui, Seigneur, tu as toujours raison et je vais me soumettre à ta volonté. Là, on fait des plans pour être heureux et bénis. Est-ce que c'est en mode? Qu'est-ce que je vous dis là? Non. Moi, je suis un pasteur démodé. Vous allez vous habituer, je suis très démodé. Mais ça marche. La Bible marche. Alors, tout ça pour dire qu'on veut comprendre le mariage, que c'est saint, que Dieu a instauré le mariage avant même l'Église. Et aussi, les relations conjugales, si on veut le dire ainsi, c'est quelque chose de bien aussi aux yeux de Dieu, que c'est Dieu qui a inventé la sexualité humaine et puis c'est pas quelque chose de sale. Dans la société et dans la religion, on perçoit la sexualité comme étant une chose de sale, n'est-ce pas? Et il y a toutes sortes de pensées, Mais qu'est-ce qui est sale? C'est la perversion. C'est qu'est-ce qui est en dehors de la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a créé? C'est beau, c'est bien et c'est merveilleux selon la parole. Alors, même pour être un bon pasteur ou un bon curé, si on parle pour le monde québécois, savez-vous c'est quoi le critère pour être un bon pasteur? Justement, hier, mon épouse et moi, on était chez des voisins à Bromont, puis on a du bon temps. Ils m'ont posé la question à la fin du souper. Je m'en allais justement, puis on dit, ben, à ton église, là, finalement, comment ça va, là, à ton église? Bon, mais finalement, j'ai resté là une heure ou deux de plus, puis on a parlé de notre église, qu'est-ce que le Seigneur faisait, tout ça. Puis il y avait plein de questions, puis j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Mais j'ai parlé justement, vous savez, bibliquement, pour être un bon pasteur, voici le critère. Puis je vais vous inviter à tourner dans 1 Timothée, chapitre 3 et le verset 2. Des choses que Dieu a mis en place ici, là. Dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 2, ça dit, il faut que l'évêque, ça nous parle ici de l'homme de Dieu, le pasteur, OK? Et pour les catholiques, eux, ils vont dire le curé. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc ici, on va parler que l'homme de Dieu ne devrait pas être polygame. Vous êtes correct avec ça? Je ne marierai pas d'autres femmes, là, ça vient de s'éteindre avec Mathilde. Donc, il devrait être le mari d'une seule femme. Verset 4, ça dit, « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? » Alors, le test pour voir si l'homme de Dieu va être un bon pasteur et bien diriger les brebis dans la maison de Dieu, c'est de regarder à sa famille. Si sa famille est tout croche, il y a un problème. Mais un curé qui ne se marie pas, qui n'a pas d'enfant, comment est-ce qu'il peut devenir le spécialiste et vous aider dans votre famille s'il n'a jamais vécu ça? Voyez-vous, le modèle biblique, c'est que l'homme de Dieu sache bien gérer sa famille. Donc, à quelque part, c'est pas mal d'avoir des enfants, c'est bien. Et dans Hébreux 13, verset 4, si je vais vous inviter, dans Hébreux 13, verset 4, concernant la sexualité, Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc l'adultère, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, mais quand on est déjà marié. Et ça dit pas de souillure. Ici, donc, le lit conjugal est exempt de souillure. Ça veut dire, dans la fidélité, il n'y a pas de souillure. Quand c'est le mari et la femme qui ont des relations sexuelles, c'est tout à fait normal et c'est béni de Dieu. Gloire à Dieu, c'est béni de Dieu. Donc, c'est pas sale, comme la société pense. Mais non, c'est quand on regarde qu'est-ce que la société a fait avec la sexualité, oui, ça devient sale parce que ça va en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand c'est biblique et ça va selon les normes que Dieu a établies, bien, Dieu dit que c'est béni. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, ça dit, « En raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc, ici, on parle que Dieu veut pas que les êtres humains brûlent de passion, mais c'est bon que les hommes aient une femme et qu'une femme ait un mari. C'est tout à fait normal, c'est bien. Et vous savez, ça veut pas dire que Dieu ne donne pas de maîtrise de soi, qu'on est célibataire. Certainement, Dieu nous donne le fruit de l'esprit, et on a la maîtrise de soi. Et gloire à Dieu, on peut vivre dans la patience et dans le célibat pendant des années de temps avec l'Esprit de Dieu dans nos vies. Mais si on n'a pas nécessairement le don du célibat, mais gloire à Dieu, Dieu a prévu une personne pour vous. Pour chacun d'entre vous, Dieu a quelqu'un en réserve. Et comme moi, j'avais 4 ans, puis je priais, je peux vous dire, je priais pas avec beaucoup de passion, ça me touchait pas vraiment à l'époque, là, mais Dieu entendait ces prix-là quand même. Et Dieu avait choisi Mathilde Gaudreau, que cette femme-là serait ma femme pour l'éternité. Mais pas pour l'éternité, hein, pour ma vie. On s'est mariés jusqu'à la mort nous sépare. Puis ma femme, des fois, elle disait, « Ouais, ben dis-moi, j'aimerais ça croire dans le mariage céleste. » Parce qu'elle dit, « J'aimerais ça qu'on vive ensemble, même au ciel. » J'ai dit, « Ben, on pourra vivre dans le même appartement, mais peut-être on sera pas ensemble. Hein? Au ciel, ça va être différent. Mais l'amour, ça va être différent. Il va y avoir une autre expression au ciel qu'on n'a pas besoin sur la terre. Mais je suis content, ma femme, elle veut vivre avec moi pour l'éternité. Alors, gloire à Dieu. Puis si on a besoin d'être ensemble pour l'éternité, pour être heureux, je suis sûr que Dieu va s'organiser avec ça. Amen. Mais en tout cas, ici, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 7, je vais vous inviter là au verset 3 à 5, puis je vais lire dans la Bible du Sommeur. Ici, ça nous parle de la responsabilité, c'est peut-être spécial de dire comme ça, mais Dieu veut tellement que le couple réussisse qu'il nous donne même des normes pour la chambre à coucher. Puis là, vous allez dire, ben, je ne m'attendais pas à une prédication comme ça à matin. Mais gloire à Dieu, parce qu'on va toucher toutes les choses qui font partie de la vie humaine. Amen. C'est spirituel de parler des choses que Dieu parle. Savez-vous ça? Si Dieu en parle, nous autres aussi, il faut en parler. En 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5, il est écrit « Que le mari accorde à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient pas, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. » Verset 5, « Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. » Et en français courant, ça dit, « Sinon, vous risquerez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. » Donc ici, ça nous parle très clairement, je n'ai pas besoin de définir plus que ça, c'est que dans le couple, Dieu a béni l'union sexuelle, dans le couple chrétien marié. Et quand on est marié, c'est tout à fait normal et c'est bien. Et quand ça n'existe pas, ça cause des problèmes. Et comme on peut voir ici, ça peut ouvrir une porte à l'ennemi et ouvrir une porte à l'adultère, n'est-ce pas? C'est une chose qui peut se produire. Et il y a certaines femmes, c'est plus les femmes qui vont faire ça, c'est que si l'homme ne fait pas quelque chose que la femme veut, la femme va fermer la porte de la chambre à coucher, je peux vous dire ça comme ça, parce qu'elle va manipuler son mari comme ça et dire « si tu ne fais pas telle ou telle chose, je ferme la porte de la chambre à coucher, comprenez? » Ça devient la sorcellerie dans l'église. Dans le couple, c'est la sorcellerie. Quand on manipule quelqu'un d'autre, c'est de faire la sorcellerie. Et Dieu ne veut pas ça dans l'église. Dieu ne veut pas qu'il y ait de la sorcellerie dans le couple, mais on devrait prendre le temps et savoir s'apprécier l'un et l'autre et s'aimer comme la parole de Dieu nous dit de faire. Et quand on fait ça, on va être heureux dans notre couple. Gloire à Dieu! Est-ce que, à date, vous êtes trop inconfortable? Qu'est-ce que je vous jase là matin? Personne des rouges, là? Si Dieu l'a mis là, c'est parce que c'est pour notre bien. Dieu veut qu'on fasse ça comme ça, que ça soit bien, bien clair pour le couple en question et qu'on puisse vivre la bénédiction. Puis c'est rien de mal, c'est rien de sale. Et dans Cantique des Cantiques, vous pourrez lire ici, Dieu nous montre justement la relation amoureuse. Et si on passe à côté de ça, puis on dit, bien nous, on est chrétiens, on ne parle pas de ces choses-là, bien là, il y a autant de divorces dans nos églises qu'il y en a dans le monde. Parce qu'on a trop peur de parler de ces choses-là. Mais il faut parler des choses qui sont vraies. Vous savez, il faut parler de l'argent, parce qu'on vit tous avec de l'argent. Il faut parler de toutes les choses, il faut parler du couple, il faut parler des problèmes de couple, il faut adresser toutes les choses qui affectent nos vies pour être bien équipés, pour savoir comment marcher dans les voies de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ce matin? On veut comprendre le dessein de Dieu pour le couple. Dans Éphésiens chapitre 5, je vais vous inviter à tourner là. Dans Éphésiens chapitre 5, on va voir qu'est-ce que Dieu en dit là. C'est quoi le modèle biblique pour le couple chrétien? Et on va comparer avec la société d'aujourd'hui pour voir ce qu'on doit remettre des pendules à l'heure. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Quand vous êtes là, vous pouvez dire gloire à Dieu. Donc, commençant au verset 22 du chapitre 5, Éphésiens 5, 22, ça dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari. » Donc, toutes les femmes disent « Amen. » Amen. Là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire au juste. Parce que quand je lisais ça, je me préparais dans la prédication, je me suis dit, imaginez s'il y a plein d'inconvertis qui viennent nous visiter ce matin-là. Ils vont me lancer des pierres ou des tomates pourrites. Ils vont dire, mais c'est quoi ce discours-là, ce discours démodé? Et je peux vous dire que certainement, ce n'est pas à la mode, mais c'est biblique. Donc, c'est vrai, c'est bon. Mais il faut le comprendre à la lumière de la parole et de son contexte. Donc, c'est différent que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Une des choses, ça ne dit pas ici que la femme soit dominée par son mari. OK? Ça dit que la femme soit soumise. Et la soumission vient simplement de la femme envers son mari. C'est pas le mari envers la femme qui la rend soumise. Comprenez-vous? Donc, quand Dieu dit que la femme soit soumise à son mari, ça veut dire que c'est la femme elle-même qui choisit de se soumettre à la décision de son mari sur un certain sujet. Et on va continuer. Vous allez comprendre comment c'est facile pour une femme de le faire quand on comprend le restant. verset 24. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Marie, verset 25, là, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Voilà le catch, comme on pourrait dire en anglais. Voilà le, comment on dit? Le secret, la formule magique, c'est que si l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, ça veut dire que l'homme doit être prêt à mourir pour sa femme. Donc ça, c'est un amour extrême, n'est-ce pas? Si j'aime Mathilde à un tel point que je serais prêt à mourir pour elle, ça veut dire que je ne vais pas lui demander de faire des choses qui vont être mauvaises pour elle, n'est-ce pas? Parce que je l'aime, je veux son bien. Mais si, admettons, on est en train de prier ensemble, on recherche la face de Dieu pour une décision majeure dans notre vie, et puis là, mon épouse, elle me dit, « Joël, je suis pas sûr qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que tu en penses? » Et puis moi, je dis, j'ai vraiment la conviction que Dieu nous demande de faire telle ou telle chose. Puis là, Mathilde, elle va dire, « Bien, je m'appuie sur toi, je mets ma confiance dans ton jugement. » Mais c'est pas moi qui va dire, « Mathilde, tu fais ça. Tu es une femme, sois soumise. » Mais vous savez, dans la société, quand on voit ça, le texte « Femmes, soyez soumises à vos maris », ça, les gens pensent « Femmes, soyez dominées comme des tapis par vos maris ». C'est ça que la société, comment la société voit les choses. Mais c'est simplement le fait que Dieu a établi un rôle dans la famille. Ça ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme, certainement pas. Quand Dieu a créé la femme, il ne l'a pas créée à partir des pieds d'Adam pour qu'elle soit dominée. Puis il ne l'a pas créée à partir de la tête pour qu'elle pense qu'elle est plus haute que son mari. Mais Dieu a créé la femme à partir de la hanche, la côte. La hanche, pas la hanche, c'est pour ça, hein? Il y en a qui vont dire, ah, c'est pour ça. Non, mais à côté, par la côte, n'est-ce pas? Donc, ça ici, ça nous démontrait que la femme est créée égale, en valeur. Dieu nous aime, Dieu aime les deux sexes autant un que l'autre, il n'aime pas plus les hommes ou il n'aime pas plus les femmes. Dieu nous aime et nous avons tous une valeur aux yeux de Dieu. Mais en même temps, Dieu a établi dans la famille des rôles pour que la famille puisse bien fonctionner. Puis quand ça arrive à un temps où on n'est pas certain sur une chose, bien, la femme peut s'appuyer sur son mari pour être le leader spirituel de la famille. Je sais que je m'en vais contre certaines traditions, même modernes. Il y a des gens qui vont dire, c'est pas ça que ça veut dire le texte. J'étudie en grec, l'hébreu. Je peux vous dire, c'est ça que ça veut dire. Si vous ne croyez pas que le mari est le chef de la femme bibliquement, vous ne croyez pas non plus que Christ est le chef de l'Église. OK? Parce que c'est ça le texte. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Verset 28. Encore une fois, Dieu rappelle à l'homme sa responsabilité. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Alors, encore une fois, ici, l'homme est encouragé, est exhorté à aimer sa femme. Donc, c'est pas une question de domination, c'est une question ici, simplement de savoir bien aimer notre conjointe pour l'aider dans les voies de Dieu. Verset 30, « Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. » Encore une fois, ça revient. « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Là, on va voir ici pourquoi on va parler plus de ces choses-là concernant les relations dans le couple. Mais une des choses vraiment qui est importante pour le mari, c'est de se sentir valorisé et respecté par sa femme. Ça, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un mari. C'est vraiment de savoir que sa femme le respecte. Et quand la femme ne respecte pas son mari, ça va toucher plein de choses dans la vie du couple. Si on continue au chapitre 6, en verset 1, on va s'adresser un petit peu aux enfants. Ça dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors, ça ici, on a le conseil de Dieu, la pensée de Dieu pour la famille. La société pourrait signer des points et dire « ça c'est sexiste, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct ». Mais finalement, on croit que Dieu a toujours raison. Il faut comprendre ces choses-là à la lumière et le contexte de la parole de Dieu, que Dieu a un but pour la famille, et c'est de voir la famille réussir et voir la famille heureuse. Et quand on met notre vie comme ça, c'est merveilleux. Donc, si on a vu vraiment la soumission, c'est pas la domination, et que l'homme est vraiment appelé à aimer son épouse. Donc, le premier point concernant le mari, si on parle un petit peu au mari. Oh, excusez, je me suis trompé. Monsieur. Oh non, excusez, c'était correct. Mesdames, on va parler plutôt des femmes en début. Ladies first, comme on dit en anglais, les dames en premier. On va parler des femmes ici. Qu'est-ce que Dieu vous dit de faire? Dans le contexte qu'on a vu, ça dit « Femmes, respectez vos maris ». Bien, il y a des femmes qui veulent avoir un leader spirituel. Ils se disent « J'aimerais ça que mon mari soit plus spirituel. J'aimerais ça là, que ça soit lui qui dise « On va à l'église ce matin ». Il y a des femmes qui prient, qui demandent au Seigneur d'avoir un homme qui est un vrai leader. Et il y a des hommes souvent qui ne sont pas. Mais savez-vous pourquoi? Souvent, c'est que la femme ne permet pas à son mari d'être un leader spirituel. Parce que la femme, souvent, elle a à cœur, elle a soif des choses de Dieu. Et puis, elle est tellement passionnée que des fois, sa passion déborde et elle va neutraliser la passion de son mari d'une certaine façon. Puis, je vous explique. C'est que des fois, les femmes vont parler en public contre leur mari. Moi, j'ai connu une dame qui priait, qui disait « Seigneur, fais de mon mari un leader spirituel ». Mais elle passait son temps à critiquer son mari publiquement en église, puis elle disait « Mon mari, c'est pas un leader ». Devant les enfants, elle disait « Ah, t'es pas un leader, faudrait que tu fasses comme ci, faut que tu mettes tes culottes ». Et puis, elle était toujours en train d'exhorter son mari à devenir un leader. Mais je peux vous dire que le mari, au lieu de devenir un leader, il prenait le recul, puis il laissait sa femme dominer dans la relation. Et ça, c'est une chose qui est vraiment, c'est toxique dans un couple quand la femme, elle dénigre son mari publiquement. Puis je sais que ça ne se passe pas ici, il n'y a personne qui fait ça ici, mais si jamais vous étiez tenté de le faire, rappelez-vous que pour le mari, la chose la plus importante, c'est savoir que sa femme le respecte. Vous savez, il y en a des hommes qui vont travailler dans un emploi séculier et des fois, les hommes sont maltraités par leur employeur, ils se font des fois dénigrer ou t'es pas bon dans ça. Et quand le mari arrive à la maison, il souhaite retrouver son fan club. Il souhaite retrouver sa femme qui est là. « Bonjour mon mari, ça a-tu bien été? » Puis là, si le mari dit « Non, ça n'a pas bien été », sa femme va être là pour l'appuyer, prier avec lui, lui donner une tape dans le dos, puis tu sais, ça va aller mieux. C'est ça qu'il a besoin. Mais quand la femme embarque avec le patron et dit « Ben, t'es un moins que rien, t'as pas sorti les poubelles encore, regarde, là, ça c'est encore brisé », puis là, commence à attaquer son mari, mais le mari n'est pas béni. Et là, tout d'un coup, le couple commence à s'effondrer. On voit toutes sortes de problèmes. Est-ce que c'est uniquement la faute de la femme? Certainement pas. Hein, on veut être équilibré. Mais je suis en train de vous donner des clés qui sont vraiment importantes. Si vous voulez être heureuse, mesdames, qu'est-ce que vous devez faire? C'est aimer votre mari, mais aussi en parole. Et si votre mari, vous trouvez qu'il y a plein de lacunes, commencez à prophétiser le contraire. Admettons que votre mari, là, il ne prie pas beaucoup, ou ce n'est pas un leader spirituel, vous pouvez commencer à remercier le Seigneur qu'il est un homme spirituel. Dans Romains 4, 7, ça dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, vous pouvez prendre ce même privilège et commencer à remercier le Seigneur que votre mari, c'est un homme spirituel, c'est un homme dans la parole de Dieu. Et par vos décrets, votre mari va changer. Amen. Croyez-vous ça ce matin? Et là, même, les maris vont entendre vos femmes dire, les femmes dire, « Oh, merci Seigneur que mon mari est merveilleux. » Et là, le mari va être, « Ah, elle pense que je suis merveilleux. Bon, ben, je vais le devenir. » Hein, on commence à être conditionné à devenir merveilleux parce qu'on entend qu'on est merveilleux. Il y a une façon de bâtir quelqu'un, et c'est souvent, moi je crois, c'est de bâtir la personne avec les vérités de la parole de Dieu au lieu de parler juste de la réalité du présent. Mais c'est notre choix. Vous pouvez parler du présent longtemps. J'ai connu une autre femme pendant 50 ans. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était, elle parlait du présent, et puis elle a demeuré dans ce présent-là. Mais vous pouvez choisir de vivre des choses différemment avec votre confession. Dans Proverbes 15, verset 1 et le verset 4, on va lire ensemble. Ça dit dans Proverbes 15, verset 15 et le verset 1, ça dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Alors, vous voyez, s'il y a de la friction dans le couple, bien la femme, des fois, ça arrive parfois, que les épouses vont critiquer leur mari et puis vont amplifier la situation. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est dire, et croire ce texte-là, une réponse douce calme la fureur. Peut-être c'est de choisir de parler différemment à votre mari, chère dame. OK? En passant, ma femme, elle ne me parle pas doucement. Elle me parle doucement, elle ne me parle pas durement. OK? Je ne vous parle pas de Mathilde ici. Mais je suis béni avec une épouse qui m'apprécie, puis moi je l'apprécie. Gloire à Dieu. Mais la femme, elle doit décider qu'est-ce qui va sortir de sa bouche. Et dans Proverbe 31, on va regarder ensemble la femme vertueuse. Cette femme-là travaille à bâtir sa maison. OK? Le verset 10 dit, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Verset 26, « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Hein, au lieu de dire, ben, t'es un moins que rien, non, elle a des belles paroles qui vont sortir de sa bouche. Verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Hey, ça, c'est rafraîchissant. Hein, vous voulez vous réveiller le matin et que vos maris vous donnent des louanges. Ben, voici les louanges du mari de la femme vertueuse au verset 29. « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Est-ce que vous aimeriez ça, chère dame, que votre mari se réveille et qu'il commence à dire ça? Bien, il y en a une très belle, mais toi, tu es plus belle que Miss America. Hein? Et dire des choses comme ça, bien, c'est possible. Mais elle, une des choses, elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle veut parler quand c'est le bon temps et pas dénigrer son mari. Qu'est-ce que je vous dis là, en passant? C'est pareil pour le mari. Pensez pas là, que c'est juste aux femmes que je dis ça. Oui, je parle parce que ça disait « Femmes, respectez vos maris » parce que c'est vraiment important pour l'homme. Mais pareillement, que le mari fasse la même chose pour sa femme. On veut faire la même chose, bénir notre épouse, lui jeter des fleurs constamment, hein, que ça soit vrai, puis que ça soit de notre cœur. OK, pas pour se moquer et reprendre cette prédication-là en se moquant. Non, mais vraiment que ça soit de notre cœur et dire « Moi, je veux bénir ma femme avec mes paroles. Je veux la respecter également. » Verset 30. La grâce ou le charme est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Alors, femmes, respectez vos maris. Pour le modèle biblique, une des choses vraiment importantes qu'on voit, c'est le respect. Messieurs, c'est à votre tour maintenant. Tout le monde va y passer un matin. OK. Pour les hommes, une des choses que Dieu veut premièrement, et pour la femme, c'est sûr aussi, mais c'est la consécration. C'est que l'homme soit guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que si l'homme n'a pas de vie de prière, comment est-ce qu'il peut être un bon leader spirituel? Si sa femme passe tout son temps à prier, puis le mari qui travaille peut-être plus que son épouse, peut-être pas, de nos jours, des fois c'est les deux qui travaillent autant. Mais la responsabilité de l'homme, c'est d'être le prêtre de sa famille, c'est d'être un leader spirituel dans sa famille. Alors si l'homme ne prend pas de temps de prière, c'est pas inspirant à une femme de se fier à son mari qui va la guider dans un bon chemin quand elle vit des temps d'épreuve. Comprenez-vous? Donc, c'est important que le mari soit un modèle dans sa maison, un modèle de prière. Et la femme va faire confiance à un homme qui l'aime juste au point qu'il est prêt à mourir pour elle. Et aussi, le mari qui est un homme de prière, un homme spirituel, c'est beaucoup plus facile pour la femme. Et une des choses que le mari doit faire, c'est qu'il doit mettre en ordre sa vie par rapport à ses yeux. Ça, c'est l'aspect chez les hommes qui est le plus touché. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 6, on va regarder ensemble, et encore une fois, c'est pour la femme, mais ici, on s'adresse spécifiquement aux hommes. 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 18, ça dit « Fuyez l'immoralité ». Donc, on parle aux hommes « Fuyez la tentation ». Fuyez l'immoralité. Vous voulez avoir une famille heureuse, bien votre couple doit être heureux et vous voulez fuir l'immoralité. Tout autre péché commis par l'homme reste extérieur à son corps, mais l'homme qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Donc, vous voulez fuir les choses qui ne sont pas de Dieu. Et vous savez, quand j'ai prêché pour la convention des hommes Victory à Halifax, il y a plusieurs mois, Une des choses que j'ai prêché, c'était sur la sanctification dans la vie de l'homme et comment c'est possible pour nous de marcher dans la sainteté. C'est pas de quoi qui est impossible, mais faut planifier de vivre la victoire. Savez-vous, la victoire ne tombera pas du ciel. Vous devez choisir de marcher dans la sainteté. Amen. Faut choisir. Et faut pas s'attendre que ça va juste nous tomber du ciel puis on va marcher en sainteté comme ça, sans prévoir des choses. Une des choses qu'on veut faire, c'est on veut fuir la tentation. C'est beaucoup plus facile d'éviter de vivre des temps de grandes tentations si on s'est enlevé de la situation tentante. Une des choses qu'on devrait faire, comme Marie, OK, on devrait jamais manger avec, admettons, votre secrétaire. Si vous êtes un patron et vous êtes dans une position d'autorité, l'homme ne devrait pas aller manger avec une femme autre que son épouse. Ça, je peux vous dire ça. Moi, là, j'irai jamais visiter une femme de l'Église sans que Mathilde soit là. Parce que bibliquement, je dois fuir l'apparence du mal, comme la parole de Dieu nous dit. Alors, je dois protéger la réputation de ma femme, la réputation de la dame dans l'Église et ma réputation. J'irai jamais, s'il y a une femme ici, vous avez besoin de relations d'aide, je peux vous dire, Mathilde va être là. Si jamais c'était une urgence, Mathilde ne pouvait pas être là, ma mère peut-être viendrait avec moi, mais j'irai jamais tout seul chez vous. Si un pasteur allait chez vous puis vous êtes une femme seule, faites attention, c'est des alarmes, c'est pas normal. Un homme ne devrait pas aller chez une femme tout seul ou avoir des entretiens, même, vous allez dire, même dans un restaurant, oui. Imaginez si je m'en vais manger avec une femme de l'Église dans un restaurant, il y a des gens qui arrivent, qui me voient en train de souper avec une femme, ils vont dire, mais comment ça qu'il mange avec elle? Il est-tu en train de tromper sa femme? Et là, ça commence à circuler dans les églises de Granby que Joel Spinks, il mange avec une autre dame, puis c'est pas son épouse. Je peux vous dire, il y a des choses qui ont circulé sur l'Église, là, c'était même pas vrai, là, pas concernant ça, pas du tout concernant des relations comme ça, mais juste sur d'autres affaires. Le monde parle. Tout ça pour dire, le monde parle et les gens peuvent inventer toutes sortes d'histoires. Alors, si on veut marcher dans la bénédiction dans nos couples, on doit fuir la tentation. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22, ça dit, « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » En anglais, ça dit, « Flee the appearance of evil. » Qu'est-ce qui peut apparaître comme étant mauvais? Fuyez cette chose-là. Puis aujourd'hui, peut-être je vous dérange. Peut-être je vous dérange dans votre... confort, mais je pense que c'est important. C'est important si on veut marcher dans la sainteté. Vous savez, les gens, quand ils tombent dans le péché, là, bien, il y a des choses qui ont mené à ça. Ils ont été exposés à des situations qui étaient mauvaises pour eux. Mais si on dit, non, j'embarque même pas dans une mauvaise situation, c'est pas bien, c'est pas pur, même si c'est pas un grand péché, aller au restaurant avec quelqu'un, c'est pas un péché, mais ça peut mener à d'autres choses. Donc, je dois prévoir le coup. Amen. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont d'accord avec moi aujourd'hui. Amen. Je sais, c'est pas populaire. OK, donc une des choses, et qu'est-ce qu'on veut faire également comme mari, c'est de chérir nos épouses. C'est important, on a dit aux femmes de respecter leur mari, mais le mari qui est appelé à aimer sa femme doit chérir sa femme. La femme doit savoir qu'elle, là, c'est le summum de l'existence des femmes. Amen. Est-ce que les femmes sont d'accord? C'est vrai. Le mari doit faire en sorte que sa femme sente que son mari tripe dessus, en québécois. Puis si ce n'est pas le cas, mari, changez. Commencez à prier que Dieu vous change. Priez pas qu'elle change, priez que vous changez et que vous puissiez vraiment aimer votre femme. 1 Pierre 3, verset 7. Dans 1 Pierre 3, verset 7, ça dit, « Vous de même, mari, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. » Traitez-les avec respect. Bon, voyez-vous, c'est à votre tour, là. Car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Savez-vous, il y a une raison souvent pourquoi dans nos églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Souvent, il y a plus de femmes dans les églises parce que les hommes ne vivent pas une vie de victoire dans leur vie privée. Et là, ils se demandent, bien, comment ça, je peux pas, on dirait, toucher le ciel. Bien, il y a des problèmes dans leur vie privée et le ciel est comme fermé. Il y a des obstacles dans leur vie de prière. Mais quand l'homme décide de marcher dans la pureté, les obstacles sont enlevés et puis il peut avoir une communion avec Dieu et voir l'exaucement à ses prières. Souvent, les hommes ont peur de s'investir dans les choses de Dieu parce qu'ils se disent, bien, je ne veux pas être un hypocrite, j'ai des péchés secrets dans ma vie. Puis finalement, si je m'approche de Dieu, les gens vont penser que, tu sais, moi, je vais savoir que je suis un hypocrite, admettons. Donc, les hommes, et surtout dans la conférence d'hommes, quand je prêchais là-dessus, sur certaines choses concernant les hommes, par la suite, j'ai eu plein d'hommes qui sont venus me voir en pleurant, puis m'ont dit, je suis pris avec plein de problèmes. Je suis pris dans des péchés secrets. Je peux vous dire, c'est possible de marcher dans la liberté. Si Dieu nous donne son conseil et nous dit de marcher dans la sainteté et soyez saints comme votre Père céleste est saint, ça veut dire qu'on peut marcher dans la sainteté. C'est possible. Mais il faut savoir prévoir les choses et s'organiser que la victoire est possible pour nous. Il faut planifier pour la victoire. Une des choses que l'homme doit faire, c'est faire comme Job. Job, dans Job 31, verset 1, il avait dit, « J'avais fait un pacte avec mes yeux et j'aurais pas arrêté mes regards sur une jeune fille. » Donc Job, ici, il avait fait un pacte, il avait établi une alliance de ne pas regarder une jeune fille d'une mauvaise façon. OK? Pourquoi c'est important? Bien, on va regarder ensemble dans Matthieu, chapitre 5. On va voir ici, c'est des choses pratiques ce matin, mais c'est important parce qu'il y a plein de couples qui se divorcent, même dans nos églises, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été établies. Il y a des secrets dans la vie des frères. Et Dieu, aujourd'hui, il veut qu'on soit tous libres. Dieu veut qu'on marche dans la liberté, qu'on ne soit pas sous l'esclavage de Satan. Amen. Dieu veut qu'on soit libres. C'est possible pour nous. Donc, on regarde ensemble Matthieu, chapitre 5 et le verset 27. Ici, il est écrit. C'est Jésus qui parlait, il dit, « Mais vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc simplement, l'imaginer, c'est un péché. C'est déjà de commettre l'adultère contre votre conjointe, votre épouse. Verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. » Donc, les gens vont dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va littéralement arracher notre œil? Non, mais il faut amputer les situations de chute. Okay? Il faut enlever tous les endroits où ça serait possible de chuter. Et en continuant au verset 29, ça dit, « Et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Verset 30, « Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Donc ici, on voit que l'homme, et ça peut être pour la femme également, mais qu'il est appelé à faire une amputation radicale dans sa vie s'il y a question qui peut tomber dans le péché. S'il y a des hommes, par exemple, qui ont de la misère avec la pornographie, bien faites l'alliance, établissez l'alliance que vous n'écouterez jamais la télévision seul. Savez-vous, si vous n'écoutez jamais la télévision seule et que vous avez toujours des enfants autour de vous, votre épouse, bien c'est sûr que vous ne tomberez pas dans la pornographie parce que vous avez plein de témoins et ça serait très gênant pour vous, n'est-ce pas? Donc, établissez cette alliance-là avec vous-même. Et si vous dites, « Ouais, mais de nos jours, c'est plus ça, là. À ça, c'est sur l'Internet. » Une autre chose que vous pouvez faire, c'est établir, vous pouvez mettre votre ordinateur dans une place publique dans votre maison, mais si vous ne pouvez pas, admettons, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est établir un genre de sensor, ou comment on dit, il y a des programmes qui existent présentement qui vont empêcher que des mauvaises images apparaissent sur votre ordinateur. Moi, je peux dire, je l'ai, moi, après mon ordinateur. Quelqu'un, l'autre fois, m'a envoyé un lien, c'est tout à fait correct, mais ce lien était sur un site qui pouvait possiblement contenir des images qui étaient contre mes valeurs. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait avant même que ce soit possible? J'ai quelque chose qui bloque toute mauvaise image. C'est impossible pour moi de tomber là-dedans parce que c'est bloqué. Donc, on peut planifier la victoire. On peut planifier de vivre dans la sainteté. Amen. C'est-tu important? Mais il y a des hommes qui vont dire, « Ah, oh, ben moi, j'en arrache. » Ben, arrache ton œil à la place. Coupe les choses qui peuvent te guider ou qui peuvent te mener à la destruction. C'est une décision. C'est vraiment ça. Savez-vous, moi, je peux vous dire honnêtement, je n'ai pas une bataille intérieure à ce niveau-là. J'en ai pas. Heureusement, j'ai été élevé dans les voies de Dieu, puis j'ai pas été exposé aux choses du monde comme beaucoup de personnes. Ça fait, quand on est moins exposé, il y a moins de racines à déterrer. C'est sûr, ça je comprends. Mais faut juste planifier. Puis dans la Bible, ça dit fais attention, toi qui penses que t'es fort. Fais attention. Faut toujours voir qu'on doit soi-même, on doit se protéger. Puis dans ma vie, j'ai vu beaucoup de pasteurs qui ont chuté dans l'immoralité. Puis quand je parlais avec mon épouse, Moi, j'ai dit, je ne chuterai jamais. Mais c'est sûr que les autres pasteurs ont dit la même chose à leur épouse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça soit vrai? On se rend redevable et on met les choses en place dans notre vie pour s'assurer de marcher toujours dans la sainteté. Est-ce que c'est possible? C'est une question de décision. Si on dit, ben moi, je ne veux pas mettre ça sur mon ordinateur, je me fais confiance, correct. Mais savez-vous, même il y a des gens qui vont envoyer des images par courriel juste pour faire tenter des gens. Savez-vous, ça existe. Ou vous êtes sur un site tout à fait normal, mais il y a des pop-up, des choses qui apparaissent. Moi, je veux rien de ça chez nous. Notre maison, on l'établit comme étant une maison de prière où l'Esprit de Dieu règne, où le sang de Jésus couvre notre demeure. On n'ouvrira pas des portes à l'ennemi dans notre maison. Amen. Vous pouvez faire la même chose aujourd'hui. C'est possible. Il n'y a pas beaucoup d'amen le matin. Amen. Amen. Donc, on doit prendre la décision. Et maintenant, on va parler aux parents. Donc, on a l'épouse qui aime son mari, qui chérit son mari, qui bénit son mari. Et on a également le mari qui est super en amour avec sa femme, qui la respecte. Il ne commet pas l'adultère dans le physique, il ne commet pas l'adultère dans ses pensées. Il a tout enlevé les portes, il a enlevé toutes les sources de péché possibles. Il marche dans la sainteté, c'est un couple qui prie ensemble. Maintenant, ils ont des enfants, et qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Bien, on veut être des modèles pour nos enfants. Est-ce que c'est possible, encore une fois, être des modèles dans la société dans laquelle on vit? Absolument, c'est possible. Je peux vous dire, mes parents ont été un modèle de la vie chrétienne pour moi. C'est important qu'on puisse le vivre à la maison, que ce ne soit pas une religion du dimanche. Dieu veut qu'on puisse marcher comme ça et vraiment vivre la vie chrétienne. Donc, la première chose qu'on veut voir, pour que nos enfants grandissent sainement, idéalement, quand c'est possible, c'est qu'on puisse voir le couple en amour. Les enfants, quand ils voient leurs parents en amour, s'aimer, ça leur donne vraiment une sécurité. Si vous dites, ben c'est pas mon cas, je suis déjà divorcé, bien, si c'est votre cas, c'est déjà trop tard, admettons, vous êtes déjà divorcé, au moins, dénigrez pas votre ex-conjoint devant vos enfants. Pour que vos enfants puissent ressentir que, bien, ils se sont séparés, mais ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas que les enfants se sentent déchirés par ça, le moins que possible. Donc, dans Proverbes 10, verset 12, ça dit, « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Et quand on a un ex ou une ex détestable, admettons, ok, c'est des personnes difficiles, c'est tout à fait naturel d'avoir de la haine dans notre cœur et de détester la personne, n'est-ce pas? C'est facile d'haïr quelqu'un. Quand quelqu'un est détestable, c'est plus difficile de choisir l'amour. Mais si vous choisissez l'amour, puis même si c'est bien facile à dire et plus difficile à vivre, si vous choisissez l'amour, Dieu vous promet la bénédiction dans votre famille. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 5, ça dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Alors, si vous choisissez l'amour, et admettons que vous êtes dans un couple, puis ça va super bien, mais choisissez toujours l'amour, même si jamais il y a des temps un petit peu moins glorieux. S'il y a des temps plus difficiles, choisissez de marcher dans l'amour. Choisissez de toujours imaginer le mieux de votre conjoint, conjointe. Et quand on fait ça, les enfants grandissent, ils voient un modèle d'amour. Ils sont inspirés, eux aussi, à vivre avec le Seigneur parce qu'ils ont le modèle. Mais des fois, vous savez, il y a des situations où le modèle n'est pas là, le modèle d'amour. Mais si jamais vous vous remariez, peu importe ce qui se passe dans votre futur, désirez d'être un modèle à ce niveau-là, que vos enfants puissent voir quelque chose de positif. Et même, une autre chose que vous pouvez faire, si ce n'est pas votre cas présent, vous pouvez également faire en sorte que vos enfants puissent voir d'autres personnes qui vivent une relation saine dans leur couple en venant à l'église. Si vous venez à l'église et puis vos enfants sont témoins que c'est possible de vivre une vie chrétienne dans la joie, dans l'amour, déjà là, ils ont l'espoir pour leur vie. Peut-être ça n'a pas marché pour maman et papa, mais je peux voir que telle personne, eux, sont heureux. Amen? Donc, soyons des modèles concernant l'amour. Une autre chose qu'on veut faire, c'est être dévoué pour nos enfants. On veut être dévoué et donner du temps à nos enfants. Dans Proverbes chapitre 22, verset 6, elle dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Le mot « instruit », c'est un verbe. Donc, ça veut dire on va faire quelque chose. On va instruire nos enfants dans les voies de Dieu. Et pour instruire nos enfants, ça prend du temps. Il y a des gens qui travaillent tout le temps, ils ne prennent pas de temps de qualité avec leurs enfants. Ils disent, « Ah, oh, ben je passe 2-3 minutes avec mes enfants, c'est de la qualité, ça. C'est pas en quantité, c'est la qualité. Je m'excuse, la qualité et la quantité vont ensemble. Faut passer du temps avec nos enfants pour qu'ils puissent voir notre vie chrétienne, qu'ils puissent voir qu'on a des valeurs en Jésus, puis qu'ils puissent s'identifier à nous. C'est très important de vivre cette vie-là et de s'investir dans nos enfants. Et la société aussi décourage beaucoup les gens d'instruire leurs enfants dans leur religion. Hein? Des fois, on entend les gens dire, « Bien, moi, là, je ne veux pas influencer mes enfants, je les laisse choisir, on va les exposer à toutes les religions, et quand ils seront vieux, ils pourront choisir pour eux-mêmes. » Avez-vous déjà entendu des gens dire ça? On ne veut pas influencer nos jeunes. Mais la Bible dit, non seulement les influencer, mais les instruire. Dieu veut, c'est notre responsabilité biblique en tant qu'enfant de Dieu, d'instruire nos enfants dans les voies de Dieu. Et mon premier ministère, je peux vous dire, ce n'est pas l'Église de la Victoire. Mon premier ministère, c'est mon Église dans ma maison. C'est mon premier ministère. Et j'avais dit à mon épouse, avant de me marier, j'ai dit, admettons, je me souviens dans le temps, Mathilde, elle avait peur de me marier parce qu'elle disait, mais tu es appelée au ministère, puis j'ai peur que la famille va toujours passer en deuxième, troisième, quatrième. Puis je me suis engagé, même avant de vivre le mariage, je me suis engagé, j'ai dit, non, mon premier ministère va être la famille. Puis si jamais le ministère d'église vient prendre la place, je vais tasser le ministère. Puis je peux vous dire, j'ai déjà été obligé de le faire parce que j'ai déjà été impliqué dans un autre ministère où j'étais toujours impliqué dans le ministère. J'allais me promener partout prêcher, puis j'ai réalisé que mon temps de famille, la qualité de vie dans ma famille manquait. Puis j'ai décidé, non, c'est pas ma destinée. Je refuse de faire souffrir ma famille comme ça. Pendant un temps, j'étais parti quasiment un mois sans vraiment voir ma famille. J'arrivais, je dormais un soir, je repartais prêcher ailleurs. Puis c'était des belles expériences, mais pas au prix de perdre ma famille. Donc, il faut réaliser que notre premier ministère, c'est notre famille. Ça commence dans notre salon. Même si toute la planète serait sauvée, mais si je perds mes enfants parce que je ne leur ai pas donné le temps, ce n'est pas une bonne affaire. Et vous, pareillement, vous devez vous assurer que vos enfants ou votre conjoint, que vous prenez le temps pour cette personne-là, pour vous établir et d'avoir une relation saine. Des fois, on aime tellement Dieu qu'on pense, en mettant le ministère en premier, qu'on met Dieu en premier. Ça, c'est faux. Dieu n'est pas le ministère. Je n'ai jamais dit que je renoncerai à Dieu. Non. Dieu va toujours être numéro un dans ma vie. Ma consécration personnelle, mon temps de prière, ma lecture de la parole, tout ça, il faut que ça soit numéro un. En deuxième, ma famille. Et en troisième, l'Église. Voyez-vous le rôle? Et quand on est comme ça, là, dans le bon rôle, Dieu va bénir parce qu'on va avoir les bonnes priorités aux bonnes places. Amen. Je suis d'accord avec moi-même. Amen. Et certainement, on va être dévoué et on va prendre soin de nos enfants financièrement. Il y a des gens, c'est une révélation pour eux de penser qu'ils doivent prendre soin de leurs enfants financièrement. Dans 1 Timothée 5,8, ça dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Bon, c'est pas très flatteur. Si on ne paye pas les choses pour nos enfants, on est pire qu'un infidèle, on a renié la foi. Et soin de nos enfants, ça s'applique ici aux finances, mais aussi côté émotionnel, tout ça. Il faut prendre soin de nos enfants. Il faut s'investir dans leur vie. Vous savez, quand vous allez sur votre lit de mort, si jamais l'enlèvement n'a pas lieu prochainement, et si vous passez par la tombe, et quand vous êtes sur votre lit de mort, vous allez coucher là, vous n'allez pas dire, si seulement j'avais passé plus de temps au bureau, si seulement là j'avais plus organisé d'affaires, si seulement j'avais plus travaillé, je serais plus heureux. Non, vous allez peut-être dire, mais si seulement j'avais pris plus de temps avec ma famille. Moi, je ne veux pas le dire. Si jamais je dois mourir, si je vis jusqu'à 121 ans et je meurs, et si je suis sur mon lit de mort, j'aimerais ça dire, et je vois ma Flore amie, ma Félicité, j'aimerais ça, et ma femme, bien sûr, Mathilde, qui va vivre jusqu'à 130, elle, j'aimerais ça les regarder et dire, je suis content, j'ai passé du temps avec vous autres, je vous ai aimé correctement. Que ce soit toute notre prière, qu'on ne soit pas sur notre lit de mort avec des regrets et dire « si seulement j'avais passé du temps avec vous autres ». Souvent, le monde réalise ça, puis c'est trop tard. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité, réalisons aujourd'hui l'importance de la famille puis comment on doit les passer en premier. Ceci dit, il y a des gens qui vont dire « ah ben moi, je passe Dieu en premier et puis ma famille en premier. Les dimanches matins, on ne va pas à l'église, on va aller au zoo. On va aller au hockey, on va aller au soccer, on va mettre 10 000 autres choses en priorité parce que ma famille est numéro un. Non, si votre famille est numéro un, vous allez placer Dieu numéro un dans votre famille. Et vos enfants vont venir à l'église avec vous régulièrement les dimanches matins. Ils vont vous voir louer le Seigneur. Ils vont apprendre de vous. Ils vont vous voir louer le Seigneur. Et comme Floramé qui loue le Seigneur et des fois les larmes coulent sous ses joues, ben c'est ça que Dieu veut. Et savez-vous, les églises qui mettent les enfants à part et tout de suite ils vont à l'école du dimanche, c'est correct si Dieu les dirige comme ça. Certaines églises ont besoin de le faire, mais dans notre église, on n'a pas la vision de faire ça. Moi, je veux que nos enfants soient toujours dans les réunions, qu'ils puissent voir que maman et papa louent Jésus. Et eux autres, ils grandissent et Félicité, même à la maison, elle disait, elle me parlait de certaines personnes, elle dit, eux autres, ils ne savent pas louer le Seigneur. Ils ne savent pas louer, mais on va leur montrer comment louer le Seigneur. Comment est-ce qu'ils peuvent montrer aux autres s'ils ne savent même pas eux-mêmes et s'ils ne voient pas maman et papa le faire? Donc, c'est super important. On met les choses en priorité. Dans Hébreux 10, verset 25, ça dit, c'est un texte concernant l'importance d'être impliqué dans une église locale et d'être fidèle. La fidélité, c'est super important. Il y a des gens qui veulent vivre la gloire, ils veulent vivre des victoires, mais ils veulent pas se mettre en position pour y arriver. Et des fois, ces gens-là, c'est eux qui vont être les plus démolis dans la vie, ils vont être les plus tristes, ils vont avoir toutes sortes de problèmes. Mais on se dit, mais si seulement tu avais entendu les 10 derniers messages, on avait déjà prêché les clés que tu avais besoin pour vivre la vie heureuse. Mais là, je dois prendre tout du temps personnel avec toi parce que tu as négligé la volonté de Dieu concernant l'église locale. Mais savez-vous, c'est super important de ne pas oublier ça. Dans Hébreux 10, 25, ici c'est Dieu qui parle. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. On sait que c'est l'apôtre Paul probablement qui l'a écrit, mais c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans notre famille, c'était pas une question dimanche matin, on va-tu à l'église ou on y va-tu pas? Des fois, on demandait jamais à mon père, « Hey, c'est dimanche, cette semaine, on y va-tu à l'église finalement, papa, on y va-tu? » Puis il dit, oh, « je vais parler avec ta mère, on va en discuter. Là. Ça te tente-tu un matin ou non? » Jamais. On n'a jamais, jamais vécu ça. Nous autres, c'était coulé dans le béton. À moins que l'enlèvement avait lieu, on était à l'église dimanche matin. Est-ce que c'est du légalisme? Non, c'est biblique. Ça veut-tu dire, admettons, il y a de la famille de l'extérieur qui viennent une fois par année. Puis il y a des exceptions. On n'est pas une gang de déséquilibrés. Il y a des exceptions légitimes, mais comme modèle de vie, ça devrait être quelque chose qui est inculqué dans notre vie. Si ça ne l'est pas, vous pouvez être, un, offensé par ce que je dis, ou deux, dire, « Ah, Seigneur, je veux mettre ma vie en ordre et aujourd'hui, je décide, j'accepte la correction qui s'applique à moi et je vais changer. » Savez-vous, il y a des gens qui disent, « Ben moi, l'église locale, je ne crois pas là-dedans. C'est pas important. » Imaginez si tous les enfants de Dieu disaient ça. Si on disait tous aujourd'hui, c'est pas important, bien dimanche prochain, cette place-là serait totalement vide. Hein? Si tout le monde, imaginez, qu'est-ce que vous croyez au sujet de Dieu? Si tout le monde croyait comme vous, ce serait quoi le futur de l'Église? Il y a des gens qui disent c'est pas important, mais ils veulent se marier. C'est important pour eux d'avoir un pasteur. Quelqu'un vient de décéder dans leur maison. Ils veulent que cette personne-là soit enterrée, avoir des funérailles. Avec les valeurs chrétiennes. Toutes ces choses, c'est important. Mais si c'est important de temps en temps, c'est toujours important. Dieu veut qu'on soit fidèle. Et si on veut avoir une famille heureuse, on veut avoir le conseil de Dieu sur toutes les choses de nos vies. Vous savez, la grippe H1N1, on a parlé dans les dernières semaines qui ont suivi. Quelqu'un qui n'était pas ici n'a pas entendu ça. Comment il va réagir? Est-ce qu'il va réagir avec la crainte, la peur? Quand on parle des crises économiques, comment réagir? Bien, si on n'est jamais à l'église, on ne peut pas savoir. Amen. Parce que Dieu a une parole pour vous. Chaque dimanche matin, quand vous venez, attendez-vous que Dieu va vous parler dans votre vie. Moi, je ne suis pas Dieu, mais qu'est-ce que je dis? À quelque part, l'Esprit de Dieu peut m'inspirer à dire quelque chose pour vous que vous avez besoin. Venez avec l'attente, l'expectative que, à quelque part, Dieu veut me dire quelque chose. Puis si vous dites oui, gloire à Dieu, bien, vous allez sortir avec quelque chose de la part de Dieu pour votre vie, pour votre croissance spirituelle. Amen. Donc, la fidélité et la constance. Deutéronome 6, versets 5 à 7, ça dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, ici, Dieu, il veut qu'on puisse marcher dans cette vie chrétienne et que ce soit quelque chose dans notre quotidien. Il y a des gens qui m'ont posé la question, tes enfants, est-ce que tu vas les envoyer dans le cours de catéchèse? Ben non, je n'ai pas besoin de faire ça, parce que de un, mes enfants, ils grandissent là-dedans, ils baignent constamment dans les choses de Dieu. À la maison, on parle toujours du Seigneur, autour de la table, on parle du Seigneur. Ça donnerait rien. De toute façon, on n'est pas catholique. Donc, catéchèse, c'est pas pour nous. Mais tout ça pour dire que, vous savez, Dieu veut pas que vous preniez vos enfants et dire, OK, aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, on est chrétien. Allons à l'église. Soyons bien habillés. Puis là, on va vivre notre vie chrétienne. Non, mais c'est toujours, toujours ici. Quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, ça doit faire partie de qui nous sommes. Nous sommes des chrétiens 24 heures sur 24. Amen. Oui. Ésaïe 5, 20. Ça, c'est une autre chose. On veut être constant dans notre marche avec le Seigneur et constant dans notre foi en Jésus-Christ. Vous savez, la société change constamment. Qu'est-ce qui est bien aujourd'hui, OK, dans la société? Demain, ça se peut que ça ne soit plus bien. Vous savez ça. La société change constamment. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais? Aujourd'hui, encore à ce jour, comment on dit, les pères incestueux, aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas correct, c'est mauvais. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans 20 ans? Ils vont peut-être dire, oh, c'est correct. Ça change constamment. Qu'est-ce qui était mauvais il y a 20 ans? Aujourd'hui, hey, on célèbre ça puis on fait des parades dans les rues, n'est-ce pas? Parce que ça change, le monde change. Là. Tout d'un coup, qu'est-ce qui est mauvais devient bien, qu'est-ce qui est bien devient mauvais. Dieu nous dit qu'il veut qu'on soit constant. Ésaïe 5, 20, ça dit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Vous savez, moi, qu'est-ce que j'ai appris depuis que j'avais 4-5 ans, là, ça n'a pas changé. C'est sûr, j'ai grandi dans les voies de Dieu, j'ai appris d'autres choses, mais la base chrétienne que j'ai reçue comme un enfant est pareille aujourd'hui. Et j'ai vu les courants, j'ai vu les choses changer dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Et Dieu m'appelle à être constant, à marcher toujours dans la vérité. Et demain matin, je ne vous dirai pas là, que je vais marier deux hommes. Ça n'arrivera pas. À l'Église de la Victoire, vous ne verrez pas deux hommes ici qu'on va venir bénir. Je m'excuse. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. Et même les Églises de la Victoire, on est protégés dans notre statut, dans nos chartes. C'est écrit comme ça. On est protégé légalement parce qu'on pourrait se faire accuser après. Vous savez, il y a toutes sortes de nouvelles lois qui sortent pour dire qu'on haït les gens, tout ça. Mais c'est pas une question d'haïr les gens, c'est d'aimer tellement les gens qu'on veut leur dire la vérité. Amen. Ça n'arrivera pas. C'est écrit dans les statuts de notre constitution que les Églises à Victoire ne permettent pas à des mariages gays. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Selon notre religion, on ne fait pas ça. C'est tout simplement, on ne peut pas. Mais dans la société, tout change et ils veulent faire en sorte que ceux qui ont des valeurs en Jésus-Christ qui soient noircis, que les gens puissent les voir comme étant des gens intolérants, tout ça. Il faut résister à cette pression dans la société, à changer pour devenir populaire et devenir à la mode. Tout ce que j'ai prêché depuis le début à matin, là, c'est pas populaire dans la société. Réalisez-vous ça? Vous êtes dans une église ce matin, vous entendez un discours qui est totalement démodé dans le monde dans lequel on vit. C'est vrai, je suis démodé. Gloire à Dieu. Dieu ne change pas. Le monde, demain matin, ils peuvent changer leur fusil d'épaule et vous dire le contraire. Et ça, c'est tout beau maintenant. Mais Dieu ne change pas. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il demeure toujours pareil. Une dernière chose que je veux attirer votre attention comme parent, et en passant, que vous soyez parent ou non, je pense que toutes ces choses-là, vous pouvez les appliquer dans votre vie, n'est-ce pas? Vous devez également marcher, on doit, pas vous devez, on doit, ensemble. On veut marcher dans l'intégrité. C'est super, super important. Dans Jacques, chapitre 5, verset 12, ça dit, « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu. Ne faites pas des promesses vides à vos enfants. Ne dites-leur pas, papa va t'emmener au zoo, ou je vais t'emmener à la ronde, ou peu importe, ou je vais t'emmener au cinéma voir des choses de Walt Disney. Faites pas des promesses comme ça si c'est pas vrai. Des enfants avec le cœur brisé, là, j'en ai vu, c'est triste quand les parents ont fait des fausses promesses. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si le papa vous dit, je vais emmener mon garçon à la pêche, allez-y. Gardez votre parole. On doit être un peuple d'intégrité. On doit marcher dans l'intégrité. Et Dieu nous donne une promesse dans Psaume 84, verset 12, ça dit, « L'Éternel Dieu est un bouclier, un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce, donc la faveur et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Si vous choisissez aujourd'hui, je vais marcher dans la vérité. Si je dis oui à quelqu'un, ça va être oui. Je vais pas prendre du recul et changer d'idée. Ça se peut dans la vie, des fois, on est obligé à changer les choses. On s'excuse, on dit « je m'excuse ». Il y a eu une chose, un contretemps, c'est hors mon contrôle. On est des êtres humains. Mais que notre vie soit comme avoir un faux pli où on est constamment en train de dire des choses et dire oui, puis finalement ça devient un non ou un non, ça devient oui. Faut rayer ça de nos vies. On doit vouloir marcher dans l'intégrité. Puis moi, c'est une chose que je trouve vraiment importante. Si on a des gens dans le ministère avec nous, la première chose que je veux voir, c'est une personne d'intégrité. Est-ce que quand on dit oui, est-ce qu'elle va dire oui ou est-ce qu'elle va toujours changer d'idée? Savez-vous, si Jean, là, de temps en temps, il se réveillait et il disait, « Joël, moi, là, oublie ça, là, la louange, je ne fais pas ça. Là, il faut que je me ramasse tout seul à tout faire la louange à matin. J'aimerais pas ça. » S'il était chambranlant de même, n'est-ce pas? Dieu là, nous appelle à marcher dans l'intégrité puis dire, « Seigneur, si j'ai dit oui, je vais faire ce que j'ai dit. Si je dis non, je ne le ferai pas non plus. » Ça, les enfants, ils vont voir le modèle. Et s'ils voient un bon modèle, ils vont grandir dans les voies de Dieu. On va voir ces enfants-là grandir, s'épanouir, être heureux dans la joie. Puis par la suite, ben, nos familles sont heureuses, sont bénies de Dieu. Et quand on se rassemble en église, on est tous une gang d'heureux et de bénis. Amen. C'est ça que Dieu veut. L'ennemi veut le contraire. C'est clair. Dieu veut notre bénédiction, il veut notre joie, notre bonheur. L'ennemi veut toujours le contraire. C'est à nous de décider. Alors aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes offensé parce que qu'est-ce que j'ai dit? Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens, vous faites entendre un message, puis vous dites, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ci. Mais remarquez, c'était des versets de la parole. C'était pas la parole de Joël Spink, c'est la parole de Dieu. Alors, si on entend la parole, puis on dit, OK, c'est vrai, il y a des choses dans ma vie qui sont pas exactement correctes. Seigneur, change mon cœur, change-moi. Je veux pas sortir de l'église avec des problèmes d'amertume, là, des dépôts d'amertume. Non, je veux recevoir cette parole, Seigneur. Je veux recevoir, puis Seigneur, transforme mon cœur, que je sois souple, que je dise oui. Et regardez la bénédiction de Dieu vous envahir dans vos vies. C'est tellement important de quitter cette place en disant oui à l'Esprit de Dieu, puis après à recevoir la joie de Dieu dans vos vies. Dieu, il veut juste vous bénir, finalement. Mais c'est à nous de prendre la décision. Comme toujours, la décision nous repose, la vie, la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisissons la vie. Amen. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Oh Seigneur, ta parole ne change pas, même si les courants dans notre société changent. Seigneur, on sait que toi, tu es le rocher solide. On peut placer notre foi en toi, Seigneur Dieu. On sait, Seigneur, que qu'est-ce que tu dis, c'est toujours vrai. Et ce matin, on veut mettre notre vie en règle. Seigneur Dieu, on veut te demander de nous pardonner les fois, Seigneur, qu'on n'a pas marché dans l'intégrité. Je te demande de me pardonner, Seigneur Dieu. Les fois, Seigneur, qu'on était un mauvais exemple. Les temps où on a manqué d'amour envers notre conjoint. Seigneur, on te demande de nous pardonner, de nous laver dans ton sang, Seigneur Dieu, de nous purifier et qu'on puisse marcher aujourd'hui avec toi, étant bien équilibré dans notre foi et dans notre marche avec toi. Seigneur Dieu, je te prie que chaque famille ici, que chaque couple, chaque célibataire, Seigneur, soit équipé ce matin pour vivre une vie de victoire dans leur famille et dans leurs relations interpersonnelles. Je te remercie, Seigneur, que tu nous donnes toutes les clés qu'on a besoin pour vivre cette vie heureuse. Je te remercie pour ces clés-là et je te prie, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse pour savoir comment opérer dans ces choses qu'on a discutées aujourd'hui. J'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.